C'est à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Et c'est là mes vœux les plus sincères pour vous. Bonne année. Est-ce que vous savez où se trouve le Bhoutan? Le Bhoutan est un petit pays bouddhiste qui se trouve dans l'Himalaya. Et si je vous parle du Bhoutan, c'est qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Bon, ça fait déjà un petit moment, mais je l'ai découvert récemment. C'est qu'en 2008, ce petit pays a inscrit dans sa constitution l'indice de bonheur national brut. Oui, c'est vrai. J'ai appris ça la semaine passée en parcourant un journal avec un titre plutôt accrocheur. Rose-Blanche, je peux te laisser projeter le titre. Le bonheur malgré tout. Face aux crises à répétition, comment tenir au quotidien et se préserver? Les recettes de la presse étrangère pour vivre un peu plus heureux. Alors quand j'ai vu cette première page, je me suis dit, ah ben c'est super. J'ai déjà quelque chose pour faire mon message aujourd'hui. Alors j'ai donc téléchargé le journal, je me suis mis en quête du bonheur. Cette quête, je vais vous avouer mon scepticisme quand même, j'étais assez sceptique d'y arriver. J'étais sûr que je n'allais rien trouver qui me satisfasse complètement. Mais je me dis, je vais quand même lire ce qui marque pour comprendre un petit peu comment le bonheur est recherché dans notre société. Je me permets de vous relever ici quelques propositions que j'ai vues dans ma lecture. Pour trouver le bonheur, il s'agit de chanter, de danser, d'habiter au Bhoutan, de croire en la psychologie, d'apprendre à développer une pensée positive, de rêver un futur sans patriarcat, aller se la couler douce sur une île, et puis voter à droite. Mais oui, parce que c'est aussi marqué, selon une étude, que les gens de gauche seraient 15% moins heureux que ceux de droite. Comprenez ici l'ironie et non un militantisme. L'article qui m'a le plus intéressé, c'est le tout premier, qui dit finalement pourquoi est-ce qu'on doit rechercher le bonheur? Et cet article, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Et le journaliste qui l'écrit constate qu'on a besoin de trouver le bonheur parce qu'il y a un climat de peur ambiante. Les gens ont peur. C'est ce sentiment-là qui domine notre société en ce premier jour d'année. La peur. Les propositions que je vous ai données avant, certaines paraissent assez drôles, mais sont finalement pleines d'astuces qui consistent à un peu modifier notre manière de faire, de nous comporter, de mettre en place des choses pour éviter d'avoir peur ou pour contenir cette peur au maximum. La Bible ne nous dit pas qu'en appliquant telle ou telle méthode, nous trouverons le bonheur. Elle nous dit plutôt que le bonheur, le vrai bonheur, s'inscrit dans une relation. Et pour ouvrir cette nouvelle année, j'aimerais méditer avec vous un texte de l'Épître aux Romains. Romains 5, les versets 1 à 11. Romains 5, les versets 1 à 11. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit notre espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, elle est vraie, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Fin de notre lecture. Et je conviens, ce texte est long et dense. Mais il est magnifique. Il est magnifique parce que ce texte nous parle d'avoir la paix avec Dieu. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est l'ouverture de ce passage. Et le thème de la paix avec Dieu commence au verset 1, mais revient aussi au verset 10 et 11. C'est comme si le thème de la paix avec Dieu encadrait l'ensemble du passage. Tout ce qu'on a pu lire dans notre lecture se trouve encadré par ce thème de la paix avec Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette paix? Cette paix consiste à retrouver finalement l'état normal des choses. La relation qui a été brisée avec Dieu, on voit ça dans le livre de la Genèse, peut désormais être restaurée. Il y a quelque chose qui peut être réparé. Voilà déjà un contraste avec les solutions que je vous ai proposées avant tirées de mon journal. La base de toute chose, celle qui doit être au fondement de notre existence, c'est d'avoir la paix avec Dieu. On peut aller vivre au... On peut voter à droite. On peut aller se la couler douce sur une île déserte, mais si on n'a pas la paix avec Dieu, j'ai bien peur que ces choses-là soient futiles. La paix avec Dieu, c'est bien plus qu'un sentiment intérieur. La paix avec Dieu, chose extraordinaire, c'est un fait réel qui est extérieur à nous. Ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de cette paix. Mais le texte nous dit que c'est Dieu lui-même, par Christ. C'est lui qui a l'initiative de cette paix. Et la condition pour bénéficier de cette paix, de cette réconciliation avec Dieu, c'est d'être justifié. Alors c'est un terme un peu compliqué, être justifié. Être justifié, ça veut dire que Dieu nous voit juste. Ce n'est pas parce qu'on accomplit plein d'efforts, pas parce qu'on fait les choses très bien, que Dieu nous voit juste. Mais Dieu nous voit à travers l'œuvre que Jésus a faite. Quand Dieu te regarde, il te regarde à travers la croix de Christ. Et à travers cette œuvre-là, Dieu nous voit juste. Ce n'est pas parce qu'on fait, mais c'est parce que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que Dieu nous voit juste. Jésus a accompli toutes les actions qu'il fallait faire. Et nous pouvons aujourd'hui en bénéficier. La paix avec Dieu est aussi une paix qui est actuelle. Paul l'a dit, autrefois nous étions ennemis de Dieu. Notez le mot ennemi qui est assez fort quand même. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché. Maintenant, nous sommes réconciliés. Et je laisserai Richard peut-être garder le mot maintenant en grec s'il n'y a pas une signification eschatologique et intéressante. Tout ce que pourra amener l'année 2023, ses joies, ses peines, ne va pas remettre en question cette vérité. Cette vérité que nous sommes aujourd'hui réconciliés avec Dieu. Et après cette réconciliation, le verset 2 nous dit « Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » La réconciliation avec Dieu nous donne aussi une espérance dans l'avenir. Il y a quelque chose devant. Je n'ai pas besoin d'avoir la certitude de passer une bonne année 2023 ou d'échafauder des plans pour savoir comment passer la meilleure année possible. L'espérance qui est devant fera que nous donnera un cap pour cette année. Cette espérance de sur une espérance qui est bien meilleure et qui est éternelle. Cette espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est là l'objet de notre fierté, nous dit Paul. L'année 2022 s'est achevée avec un sentiment de peur. Et nous, chrétiens, nous avons cette grâce d'avoir une vue à plus long terme. Cette vue à plus long terme, c'est celle d'un jour de prendre part à la gloire de Dieu. Et c'est cette réjouissance que je vous invite à prendre avec vous pour ce début d'année. Que cette réjouissance-là vous habite tout au long de cette année. Ce qu'il y aura cette année, je ne le sais pas. Mais je sais qu'un jour, je prendrai gloire, part à la gloire de Dieu. Ce jour, il ne m'appartient pas de le connaître, et je l'espère que ce sera en 2023. Mais Dieu le sait. Dieu sait quand ce jour aura lieu, parce qu'il tient toute l'histoire dans ses mains. Le jour où nous vivrons dans la gloire de Dieu, c'est le jour où Dieu restaurera toutes choses. Où tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été volé à cause du péché et du mal, sera pleinement récupéré et restauré. Oui, mes amis, un jour Jésus reviendra mettre un terme à l'histoire de ce monde. Nous ne sommes que passagers sur cette terre. Et permettez-moi d'être un petit peu rationnel en vous posant cette question. Qu'est-ce que l'année à venir comparée à l'éternité? Je ne m'avance pas trop en vous disant que l'année 2023 aura son lot de joie et d'épreuves. Oui, nous allons vivre des épreuves. Et dans ces épreuves, j'aimerais vous dire que la porte de mon bureau vous sera toujours ouverte pour partager ensemble, pour pouvoir prier ensemble, si le besoin se fait sentir. Mais Paul nous parle aussi des épreuves dans ce passage, et de manière assez curieuse. Paul se montre fier de ses détresses. Alors ici, le mot « fierté » n'est pas à prendre comme une vantardise quelconque, mais plutôt comme une joyeuse réjouissance. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance produit la victoire, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. La souffrance, alors ça, c'est vrai, l'épreuve inaugure une chaîne de vertu. Alors ça, c'est vrai que c'est un vieux mot, je n'ai pas trouvé mieux. Mais la souffrance apporte quelque chose de positif. Nos détresses aiguise notre force spirituelle. Et si nous développons nos aptitudes spirituelles à nous confier en Dieu, à rester en lui, à demeurer en lui, nous en ressortirons victorieux. Et cette victoire nourrira notre espérance en disant « Mais oui, un jour il y aura. Il y aura toutes choses qui seront restaurées. » Dit plus simplement, les épreuves sont des occasions d'affermir notre foi. Le journal dont je vous parlais à l'instant propose plutôt des astuces pour fuir les détresses. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter les détresses? Et la Bible nous dit que Dieu vient à notre secours dans la détresse. Il nous aide à garder la destination en vue, destination qui est de participer à sa gloire. Et la gloire de Dieu n'est pas qu'une espérance lointaine et futile. Dieu s'y est déjà engagé en envoyant son Fils Jésus. On l'a fêté la semaine passée. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions vivre la réalité de cette promesse. Imaginez que cette promesse d'avenir glorieux est humainement ancrée dans notre histoire. Ce n'est pas une utopie. Cette promesse est ancrée dans un acte historique. Lorsque Jésus est venu sur terre, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, nous qui étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Chers amis, alors qu'une partie de notre société commence cette année 2023 dans la peur, la crainte du lendemain, nous chrétiens, nous sommes porteurs de cette identité d'être humain réconcilié avec Dieu, cette identité d'être humain participant à la gloire de Dieu. Alors que cette réalité puisse être notre réjouissance en ce début d'année et nous accompagner tout au long de cette année. Amen et bonne année. Que le Seigneur vous bénisse.